Chapitre 12. Quelques heures après le meurtre de Séverine, M. Denizet fit arrêter Cabuche. Tout le désignait comme le coupable. Mais quel pouvait bien être le motif du crime? Pendant un interrogatoire, Misard raconta qu'une nuit, il avait vu Cabuche grimper au mur de la propriété pour regarder par la fenêtre de la chambre Mme Roubaud qui se couchait. Interrogé à son tour, Jacques dit qu'il connaissait la muette adoration de Cabuche pour la jeune femme. Aucun doute n'était donc plus permis. Seule une passion animale l'avait poussé à tuer. M. Denizet fit procéder à une nouvelle perquisition chez Cabuche, et il découvrit des mouchoirs, des gants de femme et la montre en or du président Grandmorin. Le lendemain, M. Denizet fit arrêter Roubaud. Pour lui, Roubaud était un lâche, qui, à deux reprises, n'osant tuer lui-même, s'était servi du bras de Cabuche. De nombreux témoignages établissaient le manque de relations entre les deux époux. Roubaud ne semblait pas étonné de son arrestation. Tout lui était devenu égal. À tel point qu'un jour, il cria la vérité, toute la vérité sur le crime de Grandmorin. En moins d'une semaine, M. Denizet termina l'instruction. Le tribunal condamna les deux hommes. Quelques jours passèrent. Jacques avait repris son service et il conduisait maintenant une nouvelle locomotive. La guerre venait d'être déclarée. Un soir, au lieu de son express habituel, il dut conduire un train énorme, bondé de soldats. Ce soir-là, Pequeux, le chauffeur, arriva au dépôt complètement ivre. Depuis quelques semaines, Jacques était devenu l'amant de Philomène, la maîtresse de Pequeux, et celui-ci le savait. Il ne disait rien, mais il était jaloux. Il se sentait de plus en plus révolté, refusait d'obéir, et ils avaient fini par cesser complètement de se parler. La haine entre les deux hommes grandissait. Ce soir-là, en voyant Pequeux ivre, Jacques se méfia. Les soldats étaient écrasés de fatigue, mais comme on leur avait distribué de l'eau-de-vie, ils avaient une gaieté brutale, et dès que le train sortit de la gare, ils se mirent à chanter. Jacques et Pequeux en vinrent à se battre. La machine roulait et continuait sa course. Pequeux se jeta sur Jacques. Jacques s'accrocha à son cou et ils tombèrent tous les deux dans le vide. Il y eut deux cris terribles. Les deux hommes, entraînés sous les roues par la réaction de la vitesse, furent coupés, hachés. On les retrouva sans tête, sans pieds, deux troncs sanglants qui se serraient encore. La machine continuait à rouler. Les soldats dont l'ivresse augmentait s'amusèrent de cette course violente et chantèrent plus fort. À Rouen, les personnes qui étaient dans la gare furent terrifiées lorsqu'elles virent passer, enveloppées de fumée et de flammes, ce train fou. Sans conducteur, au milieu des ténèbres, en bête aveugle et sourde qu'on aurait lâchée parmi la mort, il roulait, chargé de cette chair à canon, de ces soldats déjà hébétés de fatigue et ivres qui chantaient.